Eh bien, il est 17h sur Fréquence Mistral 99.3, c'est l'heure du coq à l'âne. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales, qui va nous parler de la seconde exposition qui est visible dans ses locaux et qui s'intitule donc Vichy et les Juifs, Basses Alpes 1940-1944. Jean-Christophe Labadie, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on va commencer donc ce sujet qui n'est certes pas très réjouissant, mais c'est un sujet historique et comme chaque sujet historique, c'est aussi une leçon de vie.
Oui, bonjour. Alors oui, donc effectivement, c'est un sujet qui est difficile d'évoquer parce que on touche là à quelque chose de très complexe, de difficile à imaginer aujourd'hui rétrospectivement. Il nous a semblé effectivement intéressant d'évoquer cette question des Juifs dans les Basses-Alpes, tout d'abord parce que finalement, nous sommes aperçus que ce sujet-là était connu quand même, il y avait une étude importante sur le sujet, mais qu'il nous a semblé évident à traiter dans la mesure où ce problème, entre guillemets évidemment, ce problème juif, s'est posé aussi dans le département des Basses-Alpes. On aurait pu penser que le département aurait échappé aux arrestations, aux rafles, aux assassinats de juifs, parce que avant la guerre, il y a très très peu de juifs qui sont installés dans le département. Il n'y en a même pas 10 qui vivent dans le département, mais au fur et à mesure de la guerre, des juifs se sont installés, ont fui les Allemands, donc on sont descendus vers la zone sud. Après la guerre, au moment donc de l'armistice, on franchit la ligne de démarcation pour se réfugier, toujours pour échapper aux Allemands, et se sont retrouvés donc dans les départements du Sud, en général sur le littoral, et puis ensuite, pour toujours fuir les Allemands, eh bien, dans l'intérieur des terres. En l'occurrence, dans le département, pour plusieurs raisons. La première, parce que tout simplement, ils ont été assignés à résidence par les préfets, en général des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, mais aussi tout simplement pour se cacher, pour fuir. Hein, donc ils sont entrés dans le département de manière clandestine. Voilà. Donc, au total, eh bien, plus de 300 juifs auront été arrêtés, déportés et pour la plupart exterminés dès leur arrivée à Auschwitz. Voilà. Donc, toute cette histoire-là, elle était intéressante à traiter. Elle découle, en fait, d'un projet qui a commencé en février-mars de l'année dernière, 2012. Il était prévu à l'origine de présenter une exposition réalisée par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, donc une exposition préparée par eux au niveau national, dans les locaux des archives départementales, et d'y associer donc quelques documents d'archives. Et puis de fil en aiguille, par des rencontres, par des discussions, en particulier avec monsieur le préfet du département, par la rencontre aussi de Marcel Gleiser, qui est qui a échappé, enfant a échappé à la rafle du Veldiv, qui était en juillet donc à Digne au moment de la commémoration des rafles du Veldiv, eh bien, ces rencontres ont fait avancer le projet. Et finalement, au lieu de faire une simple exposition, j'allais dire ordinaire, eh bien, nous sommes partis sur l'idée de faire une exposition réel de documents d'archives, donc en traitant de manière scientifique ce sujet par une exposition, d'y associer donc une pochette pédagogique à l'usage des enseignants, donc une pochette qui est importante puisqu'elle fait 215 pages, dans laquelle il y a quasiment 200 documents qui sont proposés aux enseignants et à leurs élèves. Et puis, chose plus originale, de faire témoigner, donc d'organiser des rencontres pour que les témoins de l'époque puissent raconter leur histoire à des enfants, collégiens et lycéens. Et donc, on avait organisé donc une première rencontre les 29 et 30 novembre 2012. Où on a reçu quand même plus de 300 élèves, donc ce qui n'est pas négligeable et qui au final, nous a paru très intéressante. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'émotions, forcément, mais vous savez, l'un des problèmes de l'histoire, et en particulier quand on a les sujets les plus, l'histoire assez récente, eh bien, c'est de prendre du recul toujours. Et il nous a paru même intellectuellement que c'était intéressant de proposer ces types comment dire, de médiation qui touchent à l'affect ou à l'intellect pour pouvoir traiter ce sujet-là. Alors après, évidemment, on aurait pu s'arrêter là, laisser l'exposition vivre tranquillement jusque donc au 14 mai de cette année. Et puis on s'est dit que finalement, pourquoi ne pas recommencer ? Et donc nous allons organiser deux nouvelles rencontres que j'évoquerai plus tout à l'heure, puisqu'on a depuis on a rencontré aussi un nouveau témoin. Et puis on va aussi publier un ouvrage qui fera près de 200 pages sur le sujet, parce que vous savez, tout ça a été fait dans l'urgence. Hein. Vous voyez, donc c'est, finalement, tout ça est parti en juillet 2012. En novembre, on présentait l'exposition. Donc, en très peu de temps, on a monté cette affaire. Et donc, on a dû laisser de côté certains aspects du problème. Le fait de faire un livre qu'on publiera donc, cette année, vraisemblablement en juin ou en juillet, permet de reprendre certains problèmes, de les approfondir et vraiment d'y ajouter à la fois des aspects scientifiques, mais aussi d'approfondir le sujet pour finalement proposer une étude, alors qui ne sera jamais exhaustive, qui ne sera jamais parfaite, mais qui permet quand même d'avoir une idée assez précise du sujet. Alors les choses se sont venues assez simplement. Finalement, cette question des Juifs de Vichy et des Juifs se pose dès 40. Alors on s'est d'abord intéressé tout simplement à la question du statut des Juifs des 40, donc il y a eu les deux statuts, 40-41. Donc on a proposé dans notre exposition et dans nos documents associés de montrer quel était le processus qui faisait que tout doucement on excluait les Juifs de la vie en général, hein, de la vie politique, de la vie culturelle, de la vie sociale, de la vie économique. Et donc on s'est intéressé à toutes les mesures qui se sont appliquées dans cette période des 40 hein, jusqu'en 42, et dont on avait évidemment la trace dans les archives départementales. Alors il faut dire aussi que cette question m'avait déjà intéressé, car l'année dernière, nous avions présenté, à partir de janvier jusqu'en mai, une exposition sur les papiers d'identité qui allait jusqu'en 1944. Et évidemment, à cette occasion, j'avais pris conscience à la fois du sujet, du problème, et puis je connaissais un peu mieux les fonds. Dans ces affaires-là, vous savez, quand on part sur une étude, on ne sait jamais trop ce qu'on va trouver. Et j'avais été quand même, assez interloqué, sachant que finalement il y avait beaucoup d'archives qui concernaient les Juifs. Voilà. Donc les choses, vous voyez, s'associent. Partant sur ce sujet, on a pu trouver quand même beaucoup de documents, plusieurs milliers en réalité, beaucoup de boîtes d'archives qui traitent ce sujet. Donc on a vraiment montré d'abord le processus d'exclusion. Hein, c'est la première chose. Au statut des Juifs, c'est associé une autre opération qui était la question du recensement. Alors cette question est fondamentale et agitée, on va dire, jusqu'en 1944. Tous les services, que ce soit des services administratifs ou les services policiers, les mairies aussi, puisque les maires étaient impliqués dans ces questions de recensement, les commissariats, les gendarmeries, les services préfectoraux, etc. Donc parce que c'était très compliqué à faire. Il a fallu donc recenser une population très importante et puis être capable de la suivre. Alors cette population est très hétérogène. Il y a des Juifs français, il y a des Juifs étrangers, des Juifs apatrides. Parmi les étrangers, il y a toutes les nationalités qui sont représentées. Vous avez des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Oui, vous avez aussi des Juifs français qui rentrent dans des catégories spécifiques et qui ont droit à des traitements particuliers, par exemple ceux qui ont des conduites exemplaires à la guerre, soit en 14-18, soit en 39-40. Vous voyez, donc on a différentes catégories, différents, entre guillemets, évidemment, hein, catégories au sens administratif du terme, hein, au sens de l'époque, qui rendent les choses très compliquées. Et on s'aperçoit, en travaillant sur ces listes de juifs, ces recensements, que le travail était très compliqué à mener avec exactitude et que souvent, en fait, on n'arrête pas. En fait, les services administratifs n'arrêtaient pas de vérifier leurs listes, de les mettre à jour, mais au lieu de les mettre à jour, finalement, de demander une nouvelle liste parce qu'ils étaient dans la capacité quasiment de pouvoir suivre le sort des uns et des autres. Parce que, par ailleurs, même si certains étaient assignés à résidence, d'autres étaient en résidence libre, comme les Français. Et puis, certains bougeaient aussi. Voyez. Donc, voilà, donc, c'est une affaire très compliquée. Cette question du recensement est fondamentale parce qu'évidemment, elle conditionne après toute la politique répressive. Si on ne sait pas où habitent les Juifs, on ne peut pas les arrêter. Voilà. Donc, il y a un enjeu terrible derrière. Et la question des listes, donc, il y a la question de la tenue des listes. Et puis après, il y a la question de savoir qui détient ces listes. Alors, il y a évidemment les Français, puisque ce sont eux qui constituent les listes. Mais après, il y a la question de la diffusion d'abord aux Italiens, puis ensuite aux Allemands. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux symboliques parce que Vichy, dans sa zone, veut conserver la maîtrise de son administration. Et donc, à chaque fois que les autorités italiennes ou allemandes vont demander des listes, eh bien, elles accepteront que pour les listes des puissances. En l'occurrence, si ce sont les Allemands, eh bien, on donnera la liste des Juifs allemands, des Juifs autrichiens, etc., mais pas les autres. Voilà. Donc, sans arrêt à ce jeu-là, évidemment, les Italiens et surtout les Allemands, eux, veulent avoir toutes les listes pour pouvoir procéder à toutes les arrestations possibles. Voilà. Donc, cette question des listes, le recensement est fondamental, car c'est sur ce recensement que s'appuient toutes les mesures discriminatives vis-à-vis des Juifs. Après, une fois qu'ils ont été identifiés, qu'on sait où ils habitent, on peut tout faire. On peut à la fois les exclure de la vie économique, on peut les surveiller, on peut les obliger à avoir le tampon juif sur leur papier d'identité, etc. Vous voyez, on est capable de tout faire grâce à ce recensement. Donc c'est une question fondamentale. Alors le cœur du sujet, évidemment, ce sont les rafles. On connaît très très bien l'histoire finalement des rafles dans la zone nord, en particulier donc la célèbre rafle du Veldiv, 16-17 juillet 1942. On oublie en réalité que derrière cette rafle, qui est évidemment très importante, eh bien, il y a une rafle importante aussi en zone sud, qui est donc cette rafle qui commence en réalité en août 1942, mais qui a un point d'orgue le 26 août 1942. Et donc on est parti sur l'idée de voir comment une rafle est préparée, tout simplement d'un point de vue administratif, c'est-à-dire comment on va définir qui va être arrêté. Alors on a déjà des idées avant. Hein. La règle, c'est de dire au fond, on va arrêter les Juifs étrangers ou les Juifs apatrides, on va essayer d'arrêter ceux qu'on croit se livrer au marché noir, on va essayer d'arrêter aussi tous ceux qui sont rentrés récemment. Donc on fixe d'abord l'année 36, puis l'année 33, comme limite, et on intègre à l'intérieur non seulement les Juifs étrangers, mais aussi les Juifs qui, étant rentrés récemment, ont réussi à avoir la nationalité française. Voyez, donc on va définir des catégories. Alors après, il y a aussi les catégories de Juifs, les Allemands, Autrichiens, les Juifs de Danzig, les Polonais, les Russes. Hein, donc ce sont les catégories qu'on va considérer comme déportables. Alors en l'occurrence, dans ce traitement administratif des Juifs, eh bien on a essayé de voir quel est le processus qui conduit tout simplement à d'abord l'élaboration d'une liste de personnes à arrêter, et puis ensuite la pratique, c'est-à-dire concrètement comment ça s'est passé. Alors, parce qu'évidemment, ça ne s'est pas exactement passé comme c'était prévu. Alors dans la préparation, on a donc, on revient sur cette question du recensement, c'est-à-dire qu'évidemment, on va avoir une longue période de plusieurs mois qui va commencer en gros en janvier 1942 jusqu'en juillet 1942, où on va se dire qui va-t-on recenser spécialement, donc en l'occurrence les Juifs rentrés après 36, puis après 33, etc. Ensuite, on va se dire quelle catégorie de Juifs on va arrêter, c'est variable, et puis après, dans ces catégories, on se pose la question de savoir à quel âge on arrête. Voyez, donc en l'occurrence, on définit des âges maximum et des âges minimum, 15 ans je crois et 60 ans pour les femmes, je crois que les hommes c'est différent encore. Voilà. Donc on fixe des âges pour dire en fait on va laisser par exemple les personnes les plus âgées, on ne va pas les arrêter même si elles rentraient dans ces catégories, les plus jeunes non plus. Voilà, donc il y a toute une série de dispositions qui sont posées pour savoir qui arrêter. Donc on définit une liste, mais cette liste, en fait, ce n'est pas. Il faut bien aussi s'imaginer que la préfecture des Basses-Alpes n'est pas toute seule en l'affaire. En réalité, alors c'est elle évidemment qui pilote dans le département toute cette opération, mais en réalité, elle est elle-même, elle a une double tutelle. Elle a la tutelle de sa préfecture régionale et de l'intendance de police, en l'occurrence, c'est Nice. Et en fait, ce sont, alors les intendants de police, ce sont les adjoints des préfets, qui sont des personnages très importants, qui ont vocation évidemment à régler toutes les questions de police. Et puis donc au-dessus, évidemment, le ministère de l'Intérieur, le secrétariat général à la police, qui lui dirige l'ensemble des opérations au niveau national. Voilà, donc on a comment dire, des sortes de va-et-vient entre toutes ces instances. Et en gros, les ordres viennent soit de Vichy, mais surtout de l'intendance, en disant on veut telle chose. Et puis donc les listes remontent à l'intendance, qui va elle-même fixer les personnes à arrêter. Voilà. Et ensuite, renvoyer la liste en disant voilà celle qu'il faut arrêter. Et puis ensuite, à vous d'organiser les arrestations. Alors justement, venons-en au déroulement de cette rafle. En gros, on impose au préfet un certain nombre de choses sur les conditions de l'arrestation. On leur laisse simplement le choix de l'heure. Donc en fait, là, les arrestations doivent avoir lieu le 26 août. Le préfet a le choix de l'heure. Alors on leur recommande quand même de le faire au petit matin, etc. Le préfet choisit de faire à partir de 0 heure. C'est-à-dire que les arrestations dans le département vont commencer donc à minuit, donc minuit le 26, pour aller ensuite continuer jusqu'au 27. En réalité, ça va durer 2 jours. On s'est intéressé donc à savoir comment ça se passe. Alors c'est très compliqué, parce que pour arrêter des gens et pour les transférer, il faut aussi des moyens. Alors évidemment, on va d'abord réquisitionner la gendarmerie. En général, la gendarmerie et la police, dans quelques cas, pour Manosque, par exemple, etc., ou pour Digne. Et puis ensuite, on va réquisitionner aussi des transports. Vous voyez, donc, par exemple, il faut des cars, il faut des trains. Vous voyez, donc, mais il faut des trains pour les personnes qu'on arrête, mais aussi pour tous ceux qui vont les surveiller. Vous voyez, donc, il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Donc, beaucoup de personnes, finalement, sont informées de cette affaire-là. Et puis, il y a le déclenchement lui-même. Alors, c'est donc le 26 jeudi à minuit, commencent les opérations. Les opérations donc sont menées essentiellement par la gendarmerie. Donc, on frappe aux portes et puis on dit, voilà, vous avez une demi-heure pour préparer. Alors, tout ça est préparé. L'intendance de police a envoyé un document aux préfectures pour dire, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire. Vous avez, enfin, il y a vraiment le mode d'emploi. Surveiller que les gens ne prennent pas d'armes, qu'ils ne prennent pas de médicaments avec lesquels ils pourraient se suicider, vous voyez, donc garde nalle, etc. Enfin, tout est vraiment précisé. Dire qu'il faut prendre des affaires, prendre un peu de nourriture, voilà, que vous avez une bière pour vous préparer. Voilà, donc tout est bien organisé. Ces personnes donc, sont arrêtées, sont transférées. Alors, pour la plupart, elles sont transférées à Nice, à la caserne Auvard. Quelques-uns ont été arrêtés un petit peu avant. Alors, ce sont ceux qui étaient dans les groupements de travailleurs étrangers, comme Oumé. Quelques-uns ont été arrêtés dans les jours qui ont précédé et ont été, eux, transférés à Marseille, donc au camp des Milles, en l'occurrence, puisque le camp des Milles, c'est le camp de transit pour une partie des Juifs arrêtés dans la région. Mais pour nous, c'est plutôt Nice. Donc la plupart partent sur Nice, alors soit par des cars, soit par le train, les deux moyens ont été utilisés. De là, donc de Nice, ils sont envoyés évidemment après donc à Drancy, et puis de Drancy, ils sont cette fois-ci déportés à Auschwitz et en général exterminés dès leur arrivée. Voilà. Donc vous voyez, donc, c'est une histoire difficile. Puisque le bilan de ces 2 journées d'arrestation, c'est plus de 60 personnes arrêtées et déportées, ce qui n'est pas rien. Il faut imaginer quand même l'impact que ça peut avoir dans la population quand ces opérations sont déclenchées, en particulier à Fort-Calquier, où il y avait beaucoup de Juifs qui avaient été assignés à résidence. Eh bien, ça n'est pas passé inaperçu. Donc la population aussi a quelquefois manifesté un petit peu, a pris un petit peu... Alors, c'est compliqué. On a des rapports qui racontent comment la population a vécu, en fait, ces arrestations. Alors, d'après les rapports, je dis bien d'après les rapports, que ce soit des renseignements généraux, de la gendarmerie, les rapports disent qu'en gros, la population est assez hostile aux Juifs pour 2 raisons principales. La première, c'est le marché noir. La seconde, c'est la question des prix. C'est-à-dire qu'évidemment, l'afflux d'une population supplémentaire dans des lieux où il y a déjà une pénurie a tendance à faire augmenter les prix. Alors, ce sont les prix des denrées, le prix des logements, etc. Donc, c'est souvent lié à ça. Mais je dis bien d'après les rapports. C'est très compliqué, évidemment, de savoir réellement, d'abord, qui est la population, qui est l'opinion publique, qui sont les personnes qui ont assisté, pourquoi ont-elles assisté. Vous voyez, est-ce que c'est pour réconforter ou est-ce que c'est au contraire, il y a tous ceux qui n'ont pas assisté, qui n'ont pas voulu assister, quelle était leur position. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit dans ces cas-là. Voilà. Il n'empêche quand même que certaines personnes ont trouvé quand même que les conditions étaient presque scandaleuses. Et puis certains sont réjouis de l'attitude de certains membres de l'Église, comme l'évêque de Montauban, qui a fait une lettre qui est très connue, qui porte sur la dignité humaine et qui refuse en bloc toute la politique antisémite de Vichy et qui considère que ce sont des actes barbares, qui ne sont pas dignes, vous voyez, d'un État. Voilà. Donc, il y a quand même, heureusement, j'allais dire, des réactions à ces arrestations, à ces rafles, qui sont menées de bout en bout par les Français. Là, il s'agit bien, c'est un peu l'objectif. L'objectif, en fait, c'est de livrer 10 000 Juifs de la zone libre aux Allemands pour ensuite les déporter vers l'Europe centrale. On n'en sait pas plus. Évidemment, le préfet lui-même n'a que cette information-là. Il ne sait pas, évidemment, le sort de ces Juifs, car on est quand même en 42, la solution finale est déjà en place. Hein, donc on est déjà dans le processus d'extermination. Mais tout ça est évidemment ignoré au plan local. Et donc voilà. Alors, heureusement, j'allais dire, il y a eu des... Comment dire Les forces de police, en fait, n'ont pas agi forcément brutalement. Quelquefois, elles ont tenu compte de certains contextes. Alors, je vous donne un exemple. Hein. On a étudié un exemple, c'est le cas de la famille Grève. La famille Grève, donc, c'est une histoire absolument incroyable. Ce sont deux frères et leur vieille mère qui sont installés donc, à Fort-Calquier, en résidence, assignés en résidence. L'un des deux frères avait été arrêté, alors ce sont des Juifs allemands, avait été arrêté par les Allemands en Allemagne et mis en camp de concentration. En 1939, il est dans un camp de concentration en Allemagne. Il est libéré grâce à un comité, grâce à une association d'anciens prisonniers de guerre français d'un camp qui, en 14-18, ont eu la Judengrève comme chef de leur camp et qui, visiblement, a agi avec beaucoup d'humanité, ce qui fait qu'en 1939, les Français, grâce à leur action, hein, ces anciens prisonniers de guerre, réussissent à faire libérer Grève de son camp, à faire même le faire venir en France avec sa famille. Chacun, en fait, est marié et a un enfant. Et donc Grève réussit à faire venir sa vieille mère, sa propre famille, enfin, c'est son enfant et son épouse, et son frère avec son enfant et son épouse aussi. Donc les Grèves réussissent à rentrer en France grâce à l'action des Français. Leur histoire est un peu compliquée. Il passe par les Pays-Bas, ensuite il se retrouve en France. Évidemment, il descend au fur et à mesure de l'avancée allemande. Hein. Il est amendé dans l'Aude, et puis donc il se retrouve dans les Alpes-Maritimes, et puis enfin à Fort-Calquier. Alors, les grèves sont considérées comme des juifs pratiquant le marché noir. Donc, ils sont allemands, ils viennent de rentrer en France, ils pratiquent du marché noir, donc ils sont victimes désignées pour être arrêtés. Alors, dans cette arrestation, le 26 août, il est prévu d'arrêter tout le monde, sauf, je l'ai dit, certaines personnes, soit parce qu'elles sont intransportables, soit parce qu'elles sont tout simplement trop âgées. C'est le cas de sa mère. Sa mère a plus de 80 ans, et donc elle ne doit pas être arrêtée. Sa mère, non seulement elle est très âgée, enfin leur mère, parce qu'elle est deux frères Grève, en fait, leur mère est non seulement très âgée, mais en plus elle est impotente, elle est très handicapée. Et donc, quand les gendarmes frappent à la porte, ils doivent arrêter normalement 6 personnes, et en laisser une septième, et ils décident d'arrêter finalement que le fameux Grève qui avait été libéré du camp de concentration en Allemagne avec son épouse et son enfant, et décident de laisser non seulement la mère, ce qui est normal, mais en plus son plus jeune fils avec sa famille, pour qu'il puisse s'occuper d'eux. Alors, donc, ils n'arrêtent que 3 personnes. Les Grèves sont arrêtées, transférées à Nice, envoyées ensuite au camp de Drancy, déportées à Auschwitz, et ils sont exterminés à l'arrivée. Donc, en fait, on est en août, en septembre, ils ont été exterminés. Reste les autres. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif fixé n'a pas été atteint par les rafles du 26 et 27 août. En réalité, moins de Juifs que prévu ont été arrêtés pour un pour un certain nombre de raisons, entre autres parce que les policiers ou les gendarmes ont adapté les mesures en fonction des circonstances. Et donc, il y a un débat qui s'instaure. Enfin, il n'y a pas un débat. Au début, les ordres sont clairs. C'est de dire, donc Vichy envoie des messages dans les jours qui suivent en disant « Les objectifs ne sont pas atteints. Vous devez, vous, préfet, utiliser tous les moyens. Alors, surveillance la nuit. Alors, ils arrivent comme ça à attraper deux juifs qui essayaient de partir vers la Suisse et qui venaient du Vaucluse, qui avaient, eux, compris qu'il y avait un problème et qui avaient pu échapper le 26 à la rafle qui les visait donc, dans le Vaucluse et qui malheureusement, sont tombés en pleine nuit sur des gendarmes qui, eux, les ont arrêtés. Voilà. Alors, donc, les préfets ont l'ordre de tous les moyens, visite domiciliaire, perquisition, pour essayer de faire du chiffre, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors, les grèves se posent la question donc, des grèves, des cas comme ça. Alors, Vichy dit, vous n'avez pas interprété les ordres. Il y a des catégories qui ont été définies. Vous devez, donc, appliquer ces règles et de ne pas tenir compte des circonstances locales. Donc grève pose problème. Alors, on a une note qui est très intéressante, qui date d'octobre. Donc, on est quelques semaines après cette rafle d'août. En octobre, on a une petite note qui a été faite par le chef du bureau de la police générale et des étrangers, donc celui qui, à la préfecture, gère au quotidien la question des Juifs dans le département, et avec Vichy. Alors, en fait, Vichy l'a appelé pour dire, voilà, que sont devenus nos grèves. Alors, le premier grève, Walter, le deuxième, Ernest, et puis deux autres familles qui habitaient aussi Fort-Calquier. Alors, il a quatre noms. Alors, sur la liste, il marque la date, les quatre noms, la question qui est posée par Vichy, que sont-ils devenus? Et puis ensuite, il fait les démarches. Alors, il appelle la sous-préfecture de Fort-Calquier, qui est évidemment à l'échelon intermédiaire, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et en face, il marque. Alors, le premier, arrêté, le deuxième à Fort-Calquier, le troisième à Fort-Calquier, le quatrième, lui, a pris la fuite. Alors, il n'est pas marqué « a pris la fuite », il utilise une formule, je ne sais plus laquelle, j'ai oublié, mais enfin, pour dire que lui, il est parti. Voilà. Et donc, il retéléphone le lendemain à Vichy, donc on a l'heure, hein, à 10h le matin, il téléphone à Vichy pour dire « voilà, le résultat de mes recherches ». Pour vous dire, que, d'ailleurs, entre parenthèses, que toutes ces affaires est quand même mal suivie, parce que normalement, il devrait savoir que les grèves, que l'un a été arrêté et que l'autre est encore à Fort-Calquier. Oui, ça, il devrait le savoir, puisque c'est lui qui s'occupe de la gestion des listes, etc. Donc, pour montrer bien le flottement qu'il y a dans l'administration, dans ce bureau. Voilà. Alors donc, il téléphone à Vichy ce renseignement. Quelques jours après, la préfecture reçoit l'ordre d'arrêter donc notre grève, le fameux grève qui était resté avec évidemment son épouse et sa fille, puisque le premier c'était le fils qui était parti, et puis d'arrêter donc l'autre personne, celle qui est encore Fort-Calquier. C'est intéressant car on a vraiment le processus. Et tout ça est signé par un chef de bureau. C'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, c'est un chef de bureau qui a délégation du secrétaire général à la police et puis de l'échelon intermédiaire, donc de son supérieur direct. Et donc, vous voyez, c'est vraiment une affaire de chef de bureau, même si l'ordre, il passe évidemment par le cabinet du préfet. On a comme une affaire qui se règle finalement assez vite au téléphone, car il s'agit de traiter tous ces cas particuliers. Voilà, donc, alors, les gendarmes, donc, alors, on prévoit, donc, on commence toutes les opérations qui vont amener donc à l'arrestation. On n'amène plus cette fois-ci au camp des Milles, car le camp des Milles est en train de fermer. Cette fois-ci, la destination, le camp de transit pour la zone sud, c'est Rivesaltes. Donc, la préfecture réquisition des gendarmes, réquisition du car pour transporter de Fort-Calquier au train les personnes arrêtées et leur escorte, réquisition de la SNCF pour les transporter ensuite. Etc. Donc toutes les opérations sont menées et début novembre, donc, les gendarmes frappent à la porte de grève et quand ils frappent à la porte, personne ne répond car les grèves ont fui. En réalité, ils ont été informés, parce qu'on a aussi souvent ce cas-là, certaines personnes, oui, c'est des actes de résistance, hein, vraiment, certaines personnes ont informé, alors qui, ça c'est toute une question, hein, ont informé ces personnes en leur disant « partez, car vous allez être arrêtés ». Alors donc, évidemment, c'est un échec complet, alors et tout ça a nécessité une préparation assez longue quand même, hein, un processus administratif qu'on n'imagine pas, hein, les choses ne se font pas simplement, eh bien, évidemment, le préfet demande des comptes. Alors, il demande au capitaine de gendarmerie, qui s'avérera être un résistant important, de faire donc un rapport sur cette question, pour savoir où est le problème. Il demande la même chose, d'ailleurs, aussi au sous-préfet de Fort-Calquier, pour savoir où ça a pêché. Et dans ce rapport, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de personnes étaient informées à tous les niveaux, que quelquefois les pièces étaient secrètes, puis quelquefois elles ne l'étaient pas, que des dossiers ont circulé entre la préfecture et la sous-préfecture, qu'il y a eu des coups de téléphone, vous voyez, qu'en réalité, beaucoup de personnes pouvaient être informées. Alors, peut-être que le gendarme le fait exprès, en montrant que les fuites peuvent venir de tellement d'endroits qu'évidemment, il est impossible de savoir d'où ça vient. Peut-être que ça vient tout simplement de la gendarmerie. Vous voyez, ça, on ne le peut pas. Parce que, c'est vraiment intéressant, parce que les gendarmes ont tenté ont fait des démarches pour que grève ne soit pas arrêtée, parce qu'il fallait tenir compte de la situation de leur maire. Et donc, jusqu'au dernier moment, la gendarmerie, l'adjudant de gendarmerie, donc le chef de la brigade de gendarmerie de Fort-Calquier, se tourne vers son capitaine pour lui dire tournez-vous vers le préfet pour lui dire, mais on ne peut pas l'arrêter, il faut tenir compte des circonstances précises de cette famille. On doit le laisser on doit laisser ce fils avec sa mère, car sinon sa mère, elle ne pourra pas s'en sortir. Alors en fait, grève est partie avec l'autre famille. Alors vraisemblablement, c'est l'autre famille qui les a informés, celle qui devait arrêter en même temps que lui. Donc il a payé son loyer, il a tout réglé ses problèmes, il a confié sa mère, qui elle évidemment ne peut pas se déplacer et qui ne risque rien compte tenu de l'agitation, donc a confié sa mère à quelqu'un d'autre et puis donc a fui jusqu'au train. Alors on arrive à le tracer évidemment, on sait jusqu'où il a pu aller donc avec le train à la gare, mais après on ne sait pas dans quel sens il est parti, s'il est parti vers le sud ou vers le nord. Et je crois, alors je ne sais pas, mais pour le moment je n'ai rien trouvé, je n'ai jamais trouvé aucune information sur ces grèves. Ont-ils été arrêtés après? Je n'en sais rien, je ne les ai pas trouvés dans la liste des juifs déportés grâce au, alors cette liste qu'on peut avoir sur internet avec le mémorial de la Shoah, je n'ai pas trouvé leurs traces. Peut-être qu'effectivement ils ont pu échapper à toutes ces persécutions.
Eh bien, on va écouter un document radiophonique d'époque qui nous montrera un petit peu comment étaient considérés justement les juifs en France.
Je me trouve à nouveau dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve M. Laville, qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à M. Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent. Et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer?
Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Oh, peut-être 50%, mais les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Eh bien, on leur impose l'étoile de Sion. Ce n'est pas une très grave mesure, croyez-le bien. Les Juifs eux-mêmes arborent à chaque instant cette étoile de Sion sur leur papier à lettres, sur leur boutique, sur leurs publications diverses. Et mon Dieu, ils en sont très fiers. C'est en quelque sorte leur drapeau. Nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'ils ne gardent plus leur drapeau dans leur poche.
Et est-ce que dans le passé et dans d'autres pays que chez nous, des mesures de même nature n'ont pas dû être prises?
Mais elles ont été prises à de nombreuses reprises. Non seulement les papes, non seulement nos rois ont été obligés à plusieurs reprises de lancer des édits ou des bulles qui ont imposé aux Juifs le port d'un insigne particulier qui s'appelait la rouelle, mais même dans les temps modernes, des pays comme le Maroc avaient dans leur législation des mesures qui imposaient aux Juifs de porter la robe noire ou, dans d'autres pays, un chapeau qui les distinguait du peuple commun.
Il faut donc que les Français comprennent qu'ils n'ont pas à avoir cette espèce de sensiblerie dangereuse en l'espèce, mais qu'au contraire, c'est pour eux, c'est dans leur intérêt que cette mesure est prise.
Mais naturellement, supposez que demain, 1 million de peaux-rouges soient répandus sur notre sol. Le public se dirait, mais tout de même, il y a un danger pour notre race ou notre ethnie française, n'est-ce pas ? Mais le juif ayant la peau tout à fait semblable à la nôtre, les gens n'ont pas aperçu le danger qui est réel.
Eh bien, j'espère que maintenant, ils se rencontrent.
Voilà un enregistrement qui date du 22 mai 1942, quelque chose qui fait froid dans le dos. Mais je crois, Jean-Christophe Labadie, que dans notre département, il n'y avait pas d'étoile jaune, justement.
Alors voilà, oui, effectivement, les Juifs n'ont pas porté d'étoile. Donc, effectivement, ils ont été victimes, comme ailleurs, de certaines dispositions. Entre autres les blocages des avoirs financiers, etc., toute la question économique, mais pas l'étoile jaune, effectivement. En revanche, ils ont eu l'obligation d'avoir les tampons juifs, avec des caractères de moins d'un centimètre sur leur papier d'identité, pour pouvoir quand même les distinguer, pour les identifier très facilement.
Il n'y avait pas l'étoile jaune parce que c'était la zone libre ou parce qu'il y avait une autre...
Alors il y a beaucoup de raisons. La première raison, effectivement, c'est qu'on est en zone, alors on dit libre, mais plutôt non occupée. Après, c'est une question de vocabulaire. C'est vrai qu'on dit à l'époque libre. Hein, voilà. Donc même si les Allemands faisaient pression sur les Français, c'est un problème qu'on avait abordé aussi. La question, alors là c'est intéressant parce qu'on évoque l'étoile, c'est pas, on dit à la population de ne pas avoir de sensiblerie. En gros, c'est dire quand même, il faut bien voir l'importance du problème et puis ne pas être contaminé, hein, pour bien voir l'état de contamination de la race, entre guillemets. Hein, voilà, donc c'est, effectivement, toutes ces mesures rentrent dans ces, que ce soit donc l'étoile, mais aussi le tampon juif, rentrent dans cette logique de l'exclusion. Et puis dans cette logique, dans cette idée, parce que je ne l'ai pas dit effectivement tout à l'heure en préalable, mais on a étudié donc au niveau des archives la question, donc je l'ai dit, du statut des Juifs, du recensement, mais il faut mettre aussi l'idéologie, c'est fondamental. En fait, on est dans un mouvement d'exclusion, on est dans l'idée que les Juifs ont contaminé la race, qu'il faut nous revenir à quelque chose de plus pur, donc il faut éliminer les Juifs. Alors éliminer n'est pas forcément au sens physique, c'est d'abord tout simplement les éliminer de la vie, ouais, les retirer, de les exclure. Et donc l'étoile rentre dans cette catégorie. Là. On a quelques documents comme ça. On en présente un document qui a été publié en 1942, qui raconte toujours la même histoire, qu'on retrouve dans les journaux, qui est toujours cette idée que le juif est une nation à lui tout seul, voyez, qu'il ne veut pas s'intégrer, que c'est une race à part. Je lisais un article hier qui disait que non seulement le juif, il ne veut pas s'intégrer, que c'est une race à part, mais en plus, il veut s'attirer le mérite sur lui-même, voyez, les projecteurs, et que c'est que les autres juifs l'aident, voyez. Enfin, on est dans cette logique permanente d'une catégorie qu'il faut vraiment repousser le plus loin possible. Voilà. Donc ça, c'est effectivement. Voilà. Pour en revenir, donc, je parlais des rafles, hein, donc des rafles d'août 1942. Là, on est dans des rafles qui sont conduites par des Français. On a, je l'ai dit aussi, quelques personnes qui ont pu échapper aux rafles. Après, les choses vont être un peu plus compliquées parce que, tout simplement, quand la zone non occupée va être occupée, donc à partir du 11 novembre 1942, suite au débarquement en Afrique du Nord, le département va vivre quelques mois assez tranquille grâce aux Italiens. Les Italiens vont occuper le département. C'est l'un des 8 départements du sud-est occupés par les Italiens. Les Italiens vont occuper donc le département jusqu'en septembre 1943. Et pendant cette période, ils vont empêcher toutes les initiatives de l'administration française. Tout d'abord, les sorties de juifs du département, donc en gros, impossibilité de livrer des juifs aux Allemands. Et puis même, à partir de mars 1943, les arrestations. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont interdire aux Français d'arrêter des juifs. Voilà. En fait, se réservant ce droit-là, en réalité, protégeant plutôt les juifs. À tel point d'ailleurs qu'en septembre 1943, on a le préfet reçoit des informations des renseignements généraux qui dit qu'en fait, les Italiens, qui donc quittent le territoire, puisqu'ils vont être remplacés par les Allemands, eh bien les Italiens disent aux Juifs de les suivre, parce qu'ils vont les protéger à la fois des Français, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne vont pas donner les listes aux Français, ni aux Allemands. Et donc, un certain nombre de Juifs, comme ça, vont suivre les Italiens pour échapper aux Allemands. Alors, cette présence italienne a une autre conséquence, c'est que, comme on était dans une zone d'occupation italienne, alors que le reste de la France était occupée par des Allemands, eh bien, beaucoup de Juifs se sont réfugiés dans les Alpes-Maritimes en particulier. Et donc, il y a eu, je crois qu'il y avait environ 20 000 Juifs réfugiés dans les Alpes-Maritimes. Et donc, le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence, a transféré, en fait, un grand nombre de Juifs des Alpes-Maritimes vers le département des Basses-Alpes, tout simplement pour décongestionner un petit peu les Alpes-Maritimes. Donc l'administration française s'est retrouvée dans une situation un peu compliquée pour elle. Non seulement elle ne maîtrisait pas le processus, mais en plus on lui imposait d'accueillir des dizaines et des dizaines alors quelquefois même 40 ou 50 Juifs d'un coup, de prévoir des installations pour accueillir ces Juifs transférés par les Italiens. Donc du coup, ça augmenter effectivement la présence des Juifs dans le département. Et puis il y avait quand même quelques Juifs qui étaient dans les Bouches-du-Rhône. C'est un exemple que je vous donnerai tout à l'heure. Alors ces Juifs-là se sont réfugiés, là c'était des zones d'occupation allemande, se sont réfugiés pour échapper aux Allemands dans le département. Donc là ce sont des Juifs qui sont rentrés de manière clandestine pour pouvoir échapper évidemment aux persécutions allemandes. Car les Allemands, à partir d'octobre 1943, donc ils occupent le département, et surtout novembre, eux arrêtent tous les Juifs, qu'ils soient français ou étrangers. On l'appelait comme ça, nous, mais c'est un terme d'époque, hein, c'est la chasse aux Juifs, vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'on va, les Allemands vont tenter par tous les moyens d'arrêter le plus possible de Juifs et vont donc mener des opérations à partir de Nice, d'abord, puis à partir de Marseille, pour essayer donc d'arrêter des Juifs, soit connus dans le département, hein, qu'on savait s'avaient installés dans le département, soit des Juifs clandestins. On a rencontré depuis le mois de novembre une personne qui a porté son témoignage dans le livre et qui viendra pour la rencontre au mois d'avril. Alors c'est une personne qui elle était jeune évidemment à l'époque, enfant, elle avait 10 ans. Ses parents avaient quitté Paris, étaient arrivés à Marseille et pour fuir les rafles de Marseille. Alors les rafles de Marseille, c'est janvier 1943 par les Allemands. Pour fuir ces rafles, se sont réfugiés donc dans le département et en l'occurrence dans la région de Thorame Haute. Le 5 novembre 1943, donc vraiment tout au début des arrestations allemandes, ses parents sont arrêtés à Thorame Haute. Elle-même et son frère y échappent parce qu'ils sont scolarisés à Digne, l'un et l'autre, et donc du coup ne sont pas arrêtés, ne font partie des 5 personnes arrêtées ce jour-là à Thorame Haute, et donc peuvent échapper grâce à ça, donc à cette arrestation. Ensuite, cette femme et donc son frère sont sont installés par la famille à Loos et donc vont être recueillis par une famille qui va les considérer comme leurs enfants, en fait, pour être protégés tout au long de la guerre. Voilà. Donc, pour vous dire vraiment qu'à partir de novembre 1943, les choses se sont radicalement aggravées. Les Allemands, eux, procèdent. Alors, non seulement ils chassent vraiment les Juifs par tous les moyens, dénonciation, vous savez, ils achètent. Une arrestation de Juifs, ça rapporte de l'argent. On paye, en fait, tout simplement. Par ailleurs, de plus en plus, on pille. Non seulement ça rapporte de l'argent pour celui qui est arrêté, donc les auxiliaires de la Gestapo qui sont français, des miliciens, mais en plus on pille, on vole. Voilà, donc on a plein d'exemples comme ça de cas. Alors on les connaît de deux façons. On les connaît grâce au rapport de gendarmerie, car l'administration française n'a pas renoncé à l'idée de conserver la maîtrise des opérations. Et donc, alors pas dans tous les cas, mais souvent quand les Allemands réalisent des opérations sur un territoire, il y a toujours une brigade de gendarmerie, et les gendarmes font un rapport, donc un procès-verbal, racontant l'arrestation, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Donc ça, c'est la première source. Et puis, il y a aussi des survivants, heureusement, qui ont, après-guerre, ont raconté les conditions dans lesquelles certaines opérations s'étaient passées. On a entre autres, petit-fils d'Offenbach, qui était réfugié dans le département, qui lui a été arrêté, donc a survécu, mais qui a été arrêté donc dans le département. Et il raconte comment il s'est pris un coup de crosse, on l'a volé, tout leur argent, les bijoux, tout ce qu'ils avaient, parce qu'il faut bien imaginer que ce sont des Juifs qui sont cachés. Avant de partir, ils ont essayé de récupérer le plus possible d'argent, de liquidité, de tout ce qu'ils peuvent monnayer, parce qu'ils n'ont plus rien, en fait. Donc, ils ont toujours un petit peu d'argent sur eux, des bijoux, etc., quelques biens, qui sont évidemment volés à ce moment-là. Voilà. Donc, on a la condition... Alors, on sait que lui s'est pris un coup de crosse. Son épouse a voulu suicider, mais a été sauvée grâce aux médecins à l'hôpital à Nice, parce qu'ils ont été transférés à Nice, hein, toujours. Et puis, ils ont perdu tout leur argent, et après-guerre, ils n'ont plus rien. Ils auraient été sauvés, c'est ce que raconte l'histoire, ils auraient été sauvés par un officier allemand qui était un amoureux d'Offenbach. C'est la raison, vous voyez, c'est l'absurdité de la guerre et l'absurdité de certaines situations. En l'occurrence, c'est grâce à ça qu'ils ont échappé à la déportation. Sinon, évidemment, tous ces Juifs qui étaient arrêtés dans la vallée, donc c'est le cas par exemple des parents de cette personne que nous avons rencontrée, ils ont été arrêtés le 5 et transférés donc à Nice. Et puis ensuite... Drancy, Auschwitz, hein, vous voyez, donc là, c'est vraiment toujours ce processus-là. Donc, voilà. Alors, pour bien comprendre, en fait, que cette chasse aux Juifs, en fait, commence en novembre. On a beaucoup d'opérations en novembre, décembre, en hiver aussi, dans des conditions quelquefois difficiles. Et puis, on a une recrudescence des opérations à partir de avril-mai. Hein. La grande période, c'est la fin, en fait. On est vers la fin, peu avant la libération, en fait. Et avant que le problème de la résistance se pose. Parce qu'après, au fond, les Allemands vont plus traiter du problème résistant que du problème juif. Mais avant, quand même, ils veulent régler le problème juif. Et donc, ils vont opérer à je crois, plus de 100 personnes. Hein. Donc, je parlais tout à l'heure de 300. Hein. Vous voyez, plus de 100 personnes vont être arrêtées entre le 29 avril et le 12 mai. 44, vous voyez, donc en très peu de temps. Alors évidemment, la plus grosse opération, c'est Ariane. C'est un camp d'hébergement. Ce n'est pas un camp au sens classique. C'est pas un camp qui dépend de l'intérieur et de la police. C'est un camp qui dépend du travail. Il héberge en fait essentiellement des familles, de gens qui travaillent dans des groupements de travailleurs étrangers, etc. Donc ce sont surtout des femmes, des enfants, des personnes âgées qui sont arrêtées dans des conditions très violentes. Le 12 mai, à Reyanne, au camp. Donc, en fait, un capitaine allemand arrive avec des hommes, met tout le monde dans la cour, en gros, hein, procède à l'appel. Hein, il a une liste, en fait. Hein, et donc, il appelle les gens, et les gens sont déportés, transférés par car vers Marseille. Ceux-là aussi, j'ai fait un petit peu le compte, j'ai pu regarder ce qu'ils étaient devenus. Ceux-là ont été aussi déportés hein, par les convois, donc toujours à Auschwitz, hein, via Drancy. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était toute la partie, j'allais dire, des rafles. La plus grosse partie, on va dire, de notre affaire, c'était la partie qui était réservée en fait à la préfecture. En fait, il nous avait semblé intéressant, on travaille quand même sur des archives essentiellement préfectorales, eh bien de voir comment la préfecture traitait ces affaires-là. Et donc on a essayé de s'intéresser. Enfin, on a bien vu tout de suite la responsabilité du bureau donc de la police générale et des étrangers, qui est un bureau qui dépend de la première division. Il y a deux divisions à la préfecture, qui joue un rôle central, qui est dirigé par un personnage qui a été nommé en 1941. Qui est assez jeune, qui a profité des circonstances, on va dire. Il est diplômé. Il y a une pénurie de fonctionnaires, hein, puisque pour beaucoup de raisons, certains soldats ont été arrêtés, sont dans des stalags, hein, donc ils sont prisonniers en Allemagne, etc. Enfin, bon. Donc on a besoin de fonctionnaires. Et donc il bénéficie sans doute aussi avec le préfet, hein, qui appuie beaucoup cette politique-là. D'ailleurs, le préfet de 1941 va ensuite être préfet en Lozère et va être fusillé en 1944 parce qu'il aurait dénoncé des maquis. Vous voyez, donc, des préfets qui sont très collaborateurs, hein, très proches, qui appliquent avec intransigeance la politique de Vichy et qu'on peut suspecter dans ces cas-là, hein, d'avoir des accointances avec les forces allemandes, eh bien, ce personnage s'avère être un personnage intéressant parce que, comment dire, je voudrais terminer là-dessus, en fait, hein, sur notre entretien, parce que finalement, c'est le plus extrémiste de la préfecture. Il est seul, alors il fait partie de ce qu'on appelle le service d'ordre légionnaire, qui regroupe en fait l'élite de la Légion des combattants, hein, parce que c'est en fait quelqu'un qui a fait 39-40, hein, il est combattant, il est sous-officier, hein, il a fait une guerre correcte, on va dire. Et donc, ce service d'ordre légionnaire donc, regroupé avait pour ambition de regrouper, faire une chevalerie, oui, une nouvelle chevalerie, donc regrouper donc, l'élite pour la suite, hein, car l'idée toujours hein, de la régénérescence, voilà, etc. Donc, il est seul, et d'ailleurs, ça le protège à la préfecture, car on constate quand même qu'il n'est pas très bon chef de bureau, mais en revanche, on lui donne à son crédit, justement, cette grande qualité d'appliquer la politique de Vichy, sans état d'âme, sans problème. C'est quelqu'un d'être sûr. Il est, en fait, politiquement, il est sûr. C'est vraiment ça qui le protège. Sinon, parce qu'au point de vue administratif, il y a beaucoup de flottement dans le service, dans son bureau. Il y a des réprimandes, des avertissements. On a les traces. Hein. Ses notations ne sont pas très bonnes. Mais il reste chef de bureau durant toute la guerre. Alors, ce personnage est d'autant plus intéressant, c'est que donc, il est d'abord seul en 42. Il devient ensuite milicien. Alors la milice est créée début 43, hein, en gros février-mars 43. Elle est installée en février 43 donc à Digne, puis aussi à Barcelonnette et puis à Manosque. Voilà. Donc la milice, c'est, j'allais dire, encore plus que les sols. Vous voyez, c'est une étape supplémentaire. Alors la plupart des sols sont devenus automatiquement des miliciens, puisque finalement, ça restait dans la logique. Et là on a des personnages qui sont, comment dire, alors, de plus en plus près, finalement, de la collaboration. Vous voyez, on est à la limite, à la frontière. Et il n'est pas invraisemblable. Alors, après, tout ça ne sont que des suppositions. On sait même, par ailleurs, que la milice a fourni des informations aux Allemands, d'ailleurs, à aider aux arrestations de juifs. Alors, c'était pas des miliciens du département qui arrêtaient dans le département. Ils venaient hein, des Bouches-du-Rhône ou de Marseille, mais c'était quand même des miliciens. Voilà, et donc, ils ont participé aux opérations répressives. Et en ayant un milicien à la préfecture, ça a une double conséquence. La première, c'est que, évidemment, l'information, sans doute, est basculée plus rapidement du côté allemand, on peut l'imaginer. Et puis l'autre conséquence, et un secrétaire général l'a évoqué à la Libération, c'est qu'évidemment, il est très difficile de résister aux Allemands quand vous avez un milicien dans les murs, vous voyez. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours cette question des listes hein, que j'évoquais au début, les Allemands demandent avec beaucoup, en pressant l'administration de fournir ces listes. Il y a une résistance de la part de l'administration disant « on ne vous fournira pas la liste de tous les juifs qui sont installés dans le département et, a fortiori, des juifs français ». Et donc, on a sans arrêt ce jeu. En réalité, bon, après, au mois de mai, tout est livré. Peut-être même un petit peu avant, peut-être en mars, avril. Et le secrétaire général dit « mais comment faire autrement ?» Quand on a un milicien en 1944, dans les murs, qui, lui, est tout à fait acquis à la cause allemande. Alors, c'est vrai que ce milicien, c'est un peu une découverte, parce qu'on aurait pu penser qu'il restait milicien et dans le département, et qu'en 1944, il allait se cacher, en gros, hein, pour échapper en fait, à la répression qui s'abattait légitimement hein, sur lui, vu le contexte, évidemment. Mais ce milicien ne s'est pas contenté de ça. Alors, il s'avère que peut-être dès février 1944, il a fait partie de ces miliciens qui ont été mobilisés. Alors, il était en fait milicien franc-garde. En fait, les franc-gardes, alors il était ce qu'on appelle franc-garde bénévole. Alors, les franc-gardes, en fait, c'est la branche armée de la milice. Voilà. Parce que la milice, en fait, ce sont des hommes, ce sont aussi des femmes et même des jeunes. Hein. Il y a une jeune milice. Voilà. Donc, ça, c'est la milice civile, la forme civile. Mais il y a aussi la forme militaire. C'est la franc-garde. Alors, vous avez la franc-garde permanente, donc des gens qui sont encasernés et qui sont, dont le métier est d'être milicien, d'être franc-garde. Et puis, il y a les bénévoles qui ont donc une vie, j'allais dire, c'est presque la réserve, vous voyez, hein, une vie administrative normale, une vie économique normale. Ils sont, et quand on les mobilise, donc c'est le cas, ce qui va être le cas d'ailleurs en juin 1944, quand on les mobilise, eh bien, ils prennent l'uniforme, les armes, et ils sont encasernés, et puis ensuite passent à des opérations. Alors, ce chef de bureau, milicien, dès février sans doute, va rentrer donc, dans la franc-garde et va participer à la répression des maquis de Haute-Savoie. C'est le problème en 44. Hein, on connaît bien, je ne vais pas insister là-dessus, hein, mais février-mars 44, il y a donc le problème de la répression en Haute-Savoie. Ensuite, on le retrouve, en juillet, on le retrouve à Limoges. Alors là, il est toujours dans la milice, il est toujours franc garde, et là, il participe à la répression des maquis du Limousin et peut-être, hein, du Périgord, de la Dordogne, parce que il y a des opérations qui sont menées depuis Limoges par des miliciens en Dordogne, même si ce n'est pas la région, mais c'est une question plus large, en fait. Hein. Voilà. Ce personnage, on le retrouve ensuite à Paris en août 1944. Alors, il est vraisemblablement remonté, parce qu'il n'est pas tout seul. Hein, ce n'est pas le seul milicien de Digne. Il y en a un autre qui est avec lui. Enfin, il y en a deux autres, en fait, qui sont avec lui, qui vont d'ailleurs suivre le même chemin tout au bout. Mais notre milicien est important, c'est un chef de centaine. Donc, en gros, c'est le chef militaire dans la milice le plus important du département. Voilà. Donc, ce milicien, on le retrouve à Paris, donc en août 44. Donc, il combat contre, évidemment, les Français libres qui viennent libérer Paris et contre les résistants qui libèrent Paris. Vous voyez. Et puis ensuite, les miliciens ont l'ordre d'aller direction l'Est. Donc, ceux de Paris, je crois, vont à Nancy. Et puis de Nancy, ils vont en Allemagne. Notre personnage se retrouve en Allemagne avec donc ses acolytes dinois. Et puis d'Allemagne, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont participer à la formation de la division, qui est une brigade au départ SS Charlemagne, et ils vont aller combattre en Poméranie contre les Russes. Vous voyez, c'est absolument une histoire incroyable. Hein. Donc l'histoire de quelques miliciens comme ça, d'extrémistes vraiment, hein, de Digne, qui suivent en fait ce chemin absolument incroyable de partir, oui, de participer finalement, lui participer donc à toutes les opérations répressives, puisque en fait hein, toute la politique mise en œuvre depuis 40, puisqu'il était déjà dans le bureau, hein, avant d'être chef de bureau, il était quand même déjà dans le bureau, il était rédacteur dans le bureau, et puis il va jusqu'au bout du processus hein, qui conduit vraiment à l'extrémisme le plus total. Alors après, donc en 45, évidemment la division, parce que là c'est devenu la division SS Charlemagne, est totalement défaite par les Russes, ça ne résiste pas évidemment à l'impact. Et donc on est en mars. Alors il y en a quelques-uns qui vont aller combattre ensuite à Berlin pour défendre Berlin. Lui, sans doute, avec ses acolytes, vont repartir sur la France et se font arrêter à Marseille en août 1945. Voilà, pour vous dire vraiment, vous voyez que c'est un peu une surprise. Hein, alors c'est à la fois le résultat d'un peu de chance, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a des témoignages qui racontent toute cette histoire, qui nous permettent de retracer toute cette histoire. Mais finalement, on avait mis en exergue justement ce caractère important politique hein, de ce personnage. Au départ, dès le début, en juillet, depuis juillet, en fait, finalement, on s'est aperçu qu'il y avait là quelque chose, un personnage un peu à approfondir. Et puis, vous voyez, le résultat est là. Voilà. Je voudrais simplement peut-être terminer sur ce qu'on va faire par la suite.
Oui.
Donc, je le disais tout à l'heure, donc on prévoit deux rencontres. Alors, je le dis parce que ça concerne aussi tout le public. Cette fois-ci, on ne va pas simplement réserver les rencontres aux lycéens et aux collégiens. Donc, on va d'abord organiser une première rencontre les 11 et 12 avril. Alors, le 11 avril, c'est un jeudi. Cette rencontre donc aura lieu, alors cette fois-ci, juste pour les lycéens ou les collégiens aux archives départementales. Le 12 avril, nous serons en partie avec des collégiens donc de Saint-André-les-Alpes. Et puis, on essaye de monter une opération pour faire une organisée de rencontre donc avec cette personne que j'ai évoquée tout à l'heure, hein, dont les parents étaient raflés à Doramote, donc à Alos. On est en train d'essayer de monter cette opération-là. Donc, pour la soirée, donc là, rencontrer, faire une sorte de rencontre avec les témoins, la population, pour essayer de renouer un petit peu le fil. Voilà. On prévoit aussi donc, une deuxième opération en mai. Alors, donc, les 6 et 7 mai, donc, juste avant la commémoration du 8 mai, à cause de cette raison-là, mais aussi parce que ça correspond, je le disais tout à l'heure, au point ultime, hein, vraiment maximum de la répression le mois de mai menée par les Allemands contre les Juifs. Donc là, on va faire donc une opération qui concernera les lycéens et les collégiens, mais aussi nous allons faire aussi une lecture d'archives en principe le mardi 7 mai à 19h avec donc la Mobile Compagnie hein, qui nous accompagne aussi dans, dans, dans ces lectures. Et donc cette fois-ci, donc, la population, évidemment, on appelle les uns et les autres à venir participer, à écouter cette lecture d'archives, car il y aura évidemment nos témoins qui seront présents, en principe, donc, ceux qui étaient déjà venus en novembre. Je crois que ça va être aussi enrichissant d'entendre les documents lus par une compagnie, hein, ce qui donne évidemment de la profondeur à ces documents, et puis sans doute un dialogue qui s'instaurera donc à l'issue de cette lecture.
Eh bien, Jean-Christophe Labadie, tout cela est passionnant, mais malheureusement, l'heure tourne et on va être obligé de se quitter. Mais en attendant, donc, toujours cette exposition des archives départementales Vichy et les Juifs, Basses-Alpes 1940-1944, et qui est visible jusqu'au 14 mai, tous les jours de la semaine, je crois.
Exactement.
Voilà, eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Christophe Labadie. Et voilà, allez faire un tour aux archives. Cela est très, très intéressant et édifiant.